Bonjour à tous. Comme un vendredi, deux ans après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, en cette veille donc de week-end commémoratif, quel est l'état de nos démocraties, son état face au terrorisme, année 2017 aussi, année électorale, comment revivifier la démocratie? Invité grand témoin de la dernière partie de la Grande Table aujourd'hui, la sociologue Dominique Schnapper, notre conseillère S-Démocratie, l'auteur de l'esprit démocratique des lois, elle sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, à la baguette. Il prendra la direction musicale de l'Orchestre National de France dès septembre. Celui pour qui un chef sans instrument, donc, se doit d'être une oreille témoin désirante. Le chef d'orchestre Emmanuel Krivine est l'invité de la première partie de la Grande Table jusqu'à 12h30. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Jesbert.
Fondateur de la Chambre Harmonique, orchestre de musique sur instrument d'époque, passé par les plus grandes institutions symphoniques internationales, il reprend les rênes de l'Orchestre National de France, officiellement en fonction en septembre cette année. Il y succédera à l'Italien Daniele Gatti, qui a livré son dernier concert en juin dernier. Premier Français nommé à l'ONF depuis plus de 40 ans, après le départ de Jean Martinon, Emmanuel Krivine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un grand vin, c'est comme une grande symphonie, avez-vous dit. Avant d'accepter, vous vous êtes assuré que les caves de l'Orchestre National de France étaient pleines et riches en bonnes bouteilles?
Non, pas encore. À propos de Martinon, je dois préciser quand même qu'après, à la radio ici, il y a eu Gilbert Ami. D'ailleurs, j'étais avec lui en ce temps-là, c'est-à-dire jusqu'en 81 à peu près. Donc, si vous voulez, les Français dans les grands orchestres parisiens, c'est disons depuis 81 qu'il n'y en a plus. Je dis pas qu'il n'y en a pas à Paris, quand il n'y en est pas à Paris, mais c'est symboliquement dans les trois, disons, grands orchestres parisiens, ça c'est vrai que c'est depuis, oui, 81 environ.
Donc ça fait c'est presque curieux. 40 ans, hein, ça
oui,
fait 35
c'est curieux,
ans.
C'est curieux.
Un Français donc à la tête du National, tant mieux, on s'en félicite. On va voir si ça aura une influence peut-être sur le répertoire qui sera proposé par l'orchestre. J'en reviens juste à cette très belle comparaison que vous avez faite quand même entre le vin et la musique. Qu'est-ce que, pour vous, le vin comme la musique est œcuménique? Qu'est-ce qu'elle rassemble? La musique, celle que vous proposez, celle que vous aimez. Quelles sont les vertus de la musique?
Les vertus de la musique c'est comme l'eau, c'est tout. La musique, c'est comme l'eau. C'est-à-dire, tout le monde en a besoin, mais peut-être sans le savoir, alors que l'eau, on le sait. Et je pense que si on allait à la musique comme on va à l'eau, tout se passerait mieux. En fait, c'est notre première langue, la musique. Parce qu'on dit à l'école, première langue, deuxième langue, la première langue. Parce que le fameux truc de l'évangile, le verbe était, au commencement était le verbe. Non, en fait, en ce temps-là, ça voulait dire, au commencement était le son, je pense. Donc, au commencement était la musique. Et si tout le monde revenait, ou restait, ou pratiquait la musique, le monde se porterait mieux, je crois, réellement. Parce que ça, pourquoi elle est si bénéfique? Parce que, pourquoi? Parce qu'on est sur la sensation. Quand on joue, on est dans la sensation. Donc, si tu veux, le mental, l'intellect, tout ça se met au repos. Tout le monde est sur la sensation et donc peut partager parce que, étant donné qu'il n'y a pas d'affrontement, puisqu'on partage quelque chose sur le plan des sensations et de l'action, l'ego de chacun est un peu au vestiaire et donc ça... C'est ça qui rassemble. En fait, c'est la fonction des religions. Elles sont là pour relier, comme dit le mot religion. Ben voilà, la musique, c'est une religion sans idée, sans dogme. Donc, il n'y a qu'à la pratiquer, quelle que soit sa forme. Il ne s'agit pas de pratiquer la musique classique ou autre, de pratiquer la musique, M majuscule, minuscule, tout ce que tu veux, ou les musiques. Voilà, j'arrête mon préchi-précha. Stop.
Œcuménique, justement. Vous ne mettez pas totalement de l'eau dans votre vin, hein. Emmanuel Krivine. On entend tout de suite votre passion pour la musique, sa nature, ses fonctions. Vous allez donc prendre la tête officiellement en septembre de l'Orchestre National de France. Vous allez programmer, diriger. Vous avez d'ailleurs un mot qui est intéressant. Vous ne dirigez pas, vous conduisez. En tout cas, vous préférez dire conduire que diriger. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un bon chef d'orchestre, en fait?
Un bon chef d'orchestre. Bon, diriger, conduire, c'est dans le mot, hein. Conduire, on conduit la musique. C'est-à-dire, On précède et on suit.
Et c'est peut-être dans la nuance que les qualités du chef vont peut-être faire jour, non ? Dans cette différence entre conduire et
voilà.
diriger.
Pour moi, mais vous avez des chefs qui dirigent vraiment, et tout se passe bien, ça dépend de votre constitution. Il y a plein de façons de faire de la musique et de guider un orchestre. Pour moi, on guide, c'est tout, on participe, on a les mains vides, mais on joue avec l'orchestre joue avec vous, et puis simplement on a les mains vides. C'est comme faire de la sonate. Bon, mais il y en a d'autres qui ont toute autre façon de procéder, ça marche très bien. Toscanini, c'était un autre style et ça fonctionnait. Ou mon illustre prédécesseur, Kurt Masur, juste avant Gatti, avait aussi un style comme ça, assez coercitif, et ça fonctionnait très bien avec le national.
Mais il y a quelque chose de démocratique pour vous dans la direction et dans le fonctionnement d'un orchestre ? C'est un espace démocratique.
Vous savez, le mot démocratie en ce moment est tellement mis à mal, galvaudé. C'est tellement compliqué de parler de démocratie. Par exemple, l'autre soir, dans une émission, j'ai dit que la démocratie avait vraiment des problèmes, etc. qu'elle a été trop idéaliste, si l'on veut.
Et vous êtes passé pour un dictateur.
Oui, idéologique. Et je suppose que les gens ont cru que je dînais tous les soirs avec Sarkozy. Non, ce n'est pas le cas. Même d'autres qui ne seraient pas Sarkozy. Mais ce que je veux dire, d'ailleurs, il n'est pas que ce qu'on croit. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais juste dire que la démocratie, on ne sait même plus ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire, démocratie ? C'était pour conquérir quelque chose. La démocratie, au début, c'est parce qu'il y a un manque. Donc c'est assez platonicien sans le savoir, comme dirait Monsieur Jourdain, enfin Molière plutôt. Il fallait conquérir quelque chose. Mais une fois que c'est conquis, est-ce qu'il ne faut pas faire attention au pendule dans lequel sens il va ? Donc c'est ça qui se passe, c'est qu'en ce moment, je crois que là, on voit les effets pervers de la démocratie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut verser dans son contraire. Alors simplement, c'est une histoire de pendule. On voit bien en ce moment les programmes des gens. Ce qui se passe avec FN contre ci, machin contre ça, les terreurs, les... Non, le jour où on arrêtera la bipolarité, le jour où on arrêtera droite-gauche, blanc-noir, femme-homme, etc., neutre, non, le jour où il y aura le neutre au milieu du... Le jour où on arrêtera l'ambivalence et la dualité, le monde se portera mieux parce qu'on pourra communiquer, d'ailleurs comme en musique.
Emmanuel Krivine, dans une interview au quotidien suisse, Le Temps, vous en avez donné une définition assez subtile et généreuse de ce qu'est un bon chef d'orchestre. Entre l'énergie d'un Georges Prêtre, la présence et l'habileté d'un M. Jarvi ou l'inspiration d'un Carlos Kléber, tout réside dans l'écoute. Un chef sans instrument donc se doit d'être une oreille témoin désirante. Voilà ma définition. Quand on désire, l'autre le perçoit et vous suit. C'est une question de vibration. Dès la levée, l'abstraction disparaît. On entend ce qui va suivre. Puis comme une voiture, il faut conduire dans les chaos ou les chemins plus larges, corriger, guider plutôt que diriger. C'est une forme de mise en vie. Le chef tient aussi de la sage-femme. Après avoir fécondé le concept, on aide à le faire naître. Ces obsèques auront lieu demain. Le français Georges Prêtre, décédé mercredi le 4 janvier à l'âge de 92 ans, longtemps à la tête du prestigieux orchestre philharmonique de Vienne. Après la trompette, il s'essaye à la composition avant de rejoindre la direction. Je me suis fiancée à toutes, mais n'en ai épousé aucune, disait-il de son rapport aux formations musicales qu'il avait dirigées. Si on compare l'orchestre à un cheval de course, pour lui, il était le jockey.
Le chef, j'aime pas ce mot. Non, ni chef, ni directeur, on trouve pas le mot exact. Pour moi, l'orchestre et les artistes, ce sont mes instruments. Hein? Donc quand je joue de l'orchestre, on n'a pas trouvé le mot encore pour dire chef d'orchestre, ça fait un peu militaire, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui est merveilleux, que ça soit l'orchestre ou les artistes. Nous, comment dirais-je, je fais toujours la comparaison, mon orchestre c'est un cheval de course, hein, un pur sang. Il est allemand, il est anglais, il est tout ce que vous voulez, mais je lui ferai faire le parcours que je veux d'après la partition, d'après le style de la partition. C'est-à-dire, un pur sang anglais pourra me jouer la musique française ou la musique allemande, et le contraire aussi. Mais je ne serai toujours que le jockey. C'est lui qui va sauter. Mais sans mon appel, sans mon... Comment dirais-je, le forcer à faire ce que je souhaite, il ne sautera pas bien. Voyez-vous ? Les artistes aussi, vous savez, j'ai connu des grands artistes, hein, encore maintenant, mais il y a une complicité. Et il faut qu'à un moment donné, que le public ne se rende pas compte. Personne ne dirige l'autre. C'est pour ça que le mot chef n'existe pas. Mais nous influençons. Nous essayons d'attirer dans le style que nous souhaitons. Voyez-vous? Mais ça se fait gentiment, vous savez. Ça se fait comme un cavalier, vous savez, avec les rênes, et encore très peu. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas, de temps en temps, de laisser aller, comme ce que là, comme le pur sang, de le laisser aller un petit peu comme il veut, parce qu'il va bien.
Georges Prêtre, vous retrouvez dans cette définition de Georges Prêtre, Emmanuel Krivine?
Non, pas du tout, mais ça lui correspond. Ouais. Ça lui correspondait, ça lui correspond. Il est construit comme ça. C'est intéressant parce qu'il se contredit entre le jockey et après. C'est-à-dire, il y a un peu de ça, je comprends. Moi, je dirais que... Oui, c'est compliqué. Il me semble que quand ça se passe bien, on ne sait pas où se trouve le jockey, c'est ça. Ça peut être l'orchestre, le jockey. Je crois que la musique se situe au centre d'une énergie partagée et chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Et c'est pas parce que t'as les mains vides que tu ne joues pas. Et quant à tout à l'heure, je tenais à préciser que c'est intéressant la fonction androgyne. À la composition, la structure androgyne du chef, on pourrait dire, si vous voulez, que le chef, oui, il est androgyne au sens de l'androgyne platonicien, si on veut être pompeux, d'origine. Donc, on féconde et en même temps, on aide à l'accouchement. On féconde le concept, si vous voulez, il y a un élément fécondateur. Et ensuite, on est la sage-femme, ou le sage homme, comme vous voulez, ou le sage androgyne, qui donc aide à la musique qui est le bébé. Donc c'est ça qui se passe. Tout ça, c'est... Et ce qui est intéressant, c'est aussi le rôle du public. Parce qu'on voit toujours une espèce de clivage avec le bord de la scène. T'as la scène, ce qui se passe, et l'autre qui est là, voyeur ou passif ou tout ce que tu veux, dans la salle, pas du tout. C'est une énergie qui circule et l'écoute du public est tout aussi active que le jeu de l'orchestre et du chef, me semble-t-il.
Alors on va voir ce que vous allez féconder, notamment le 12 janvier prochain dans l'auditorium de Radio France. Votre sensibilité à vous, Emmanuel Krivine, violoniste, avant de devenir chef, vous confessez être sensible à l'approche artisanale de la musique dans un univers de plus en plus industriel, être aussi un passionné du phrasé. Le monde et les musiciens ont perdu le sens de la ligne, avez-vous dit. Voilà un peu pour la touch Krivine. Emmanuel Krivine, nouveau directeur musical de l'ONF. Le National a été fondé en 1934, c'est le premier orchestre symphonique de la radio française et aujourd'hui l'une des quatre formations à Radio France. Vous l'aviez dirigé notamment en 2004 et n'en avez pas gardé, on peut pas dire un très bon souvenir, mais un souvenir en tout cas ambivalent. C'était le bazar, avez-vous dit, avec un esprit de caserne, un peu franchouillard. En septembre 2015, puis en mars 2016, je crois, vous avez repris vos marques là-bas avec Berlioz, Saint-Saëns, Shostakovich et Bertrand Chamaillou au piano. L'orchestre a bien grandi pour vous. Vous arrivez maintenant en terrain conquis dans ce National.
Terrain conquis, là, je croirais entendre Prêtre. Mais Dieu et son âme, c'était un type très chouette et une énergie incroyable. Non, ce qui est important dans cette affaire, non, c'est, ça voulait dire simplement que l'orchestre se transforme comme notre société. Il est très important de voir que ce pays change, l'enseignement change, plein de choses se développent ici, les frontières sont ouvertes concernant la musique. Je crois que Rolf Liberman autrefois à l'opéra a donné un tel coup de pied dans la fourmilière qu'il y a eu un trauma, enfin un nervous choc, et donc ça a créé, je pense, toute une dynamique ensuite. Donc, tout s'est transformé. Vous avez aussi la dématchisation de la société, ou dévirilisation, on peut dire, qui est son pendant. Vous avez la condition féminine qui, quand même, est en train de changer. Qui est en train de changer. Oui, quand même, parce que c'est pas vraiment fini. La langue, c'est-à-dire on a accès à plein de choses alors qu'avant on se protégeait vraiment. Les recrutements dans les orchestres étaient très franco-français, donc tout ça bouge. Donc forcément les orchestres évoluent, tout évolue dans le même sens. Alors là vous avez un orchestre beaucoup plus mature, beaucoup plus souple, comment dire, moins dans la lutte des classes, faut dire. En tout cas, pas du tout dans la pratique musicale, peut-être dans les discussions syndicales et autres, ça je ne sais pas, mais en musique, pas du tout. Donc j'ai retrouvé un autre orchestre, réellement, j'avais pas besoin de faire le flic, ce qui est très agréable, parce que j'ai toujours trouvé qu'un chef flic, ben, la musique souffre. Et que quand on dit d'un chef, vous savez, on entend une mouche voler quand elle est là, quand il est là. Moi, je trouve que c'est pas du tout le but d'un chef, hein, c'est de faire de la musique. S'il faut qu'une mouche vole, ben, qu'on entende une mouche voler, qu'on n'entende pas une mouche voler, il va dans l'armée ou dans la police, mais il a rien à faire dans la musique. Donc, tout ça, ça s'arrange. Et c'est pour ça que la stature du chef, par rapport à ce que dit Prête, par exemple, elle est en train de changer. Et c'est pas mal. Mais pour ça, il faudrait que tout aille à l'avenant, si vous voulez. Il faudrait que toute la société soit comme la musique. C'est-à-dire, quand l'autre, celui de l'autre bord, a une bonne idée, ben on s'y oppose pas, on la prend, on la travaille. C'est ça la démocratie.
Alors on imagine que ça doit vous travailler depuis que vous avez été nommé, que vous avez accepté cette direction. Quelle sera votre programmation? Vous avez une marge de manœuvre plus qu'importante dessus, sur les concerts que vous allez, le répertoire que vous allez diriger avec l'ONF.
Oui, oui, tout à fait.
Ça, ce sera
oui,
à partir de septembre, hein.
Oui, oui, mais déjà on travaille, puis j'ai des concerts avec eux, et puis on travaille à tout ça. En plus, il y a une équipe ici qui est fantastique sous la direction de Michel Henrier, qui est extrêmement futée. Et donc tout ça est très, très positif. Le fait qu'il y ait dans cet orchestre, dans cette maison de Radio France, autant de choses, enfin deux orchestres, le chœur, etc. Tout le monde crie là-dessus. Il n'y a pas à crier, c'est sensationnel. Et en plus, c'est...
Et un auditorium.
Oui, l'auditorium, ben évidemment. Et puis, par exemple, les chaînes de radio, comme justement là où je suis maintenant avec vous. Et puis, ou France Musique, ou même... Bon, c'est fantastique, ça. Je crois qu'on devrait arrêter de pleurer sur ce qui caractérise ce pays. Même si nous, on voit la face nord des choses... Il y a une face sud fantastique. C'est comme le vin. Il faut arrêter de piétiner le monde du vin. Sinon, il va crever. On ferait mieux de voir ce qu'il y a de bien dans le vin. Donc, Monsieur Évin, par exemple, Monsieur Évin devrait être, excusez-moi, en tôle. Ce type-là, sa place est en tôle, excusez-moi.
Laissez-lui sa liberté.
Bon, parce que pendant ce temps-là, la viticulture meurt. Donc, ce qu'il faut voir,
oui,
c'est...
Vous êtes un chef rouge, en fait.
Pardon?
Vous êtes un chef assez rouge, quand même. Hein.
Rouge?
Oui, monsieur. Mais quel, vous voulez rouge... mettre tout le monde en tôle. Non, je vous taquine. Je voulais voir si on
allait... Non, ça, c'est parce que Castro est mort, peut-être. Non, mais je veux dire, par là, il faut arrêter de nous pestiférer nous-mêmes. La self-pestifération. Il faut voir ce qu'il y a de bien. Alors, justement, Radio France... Toute cette multitude, qui est peut-être difficile à gérer, j'imagine que Gallet, il s'amuse pas tous les jours avec une boîte pareille, ni les employés de Radio France, mais c'est un truc extraordinaire. Alors par exemple, au lieu de se battre entre les deux orchestres, on ferait mieux de se rencontrer, de collaborer, de rire. Bref, qu'il y ait une vraie dynamique au lieu qu'il y ait un arbitre qui évite au type de se taper sur la figure. Bon, alors quant à la programmation, ce que vous m'avez demandé, bon, c'est vrai que je m'en occupe, mais il y a Denu avec moi qui réfléchit tout ça, avec en même temps Bador de l'autre côté au Philharmonique. Donc comme ça, justement, il y a une synergie. Mais je ne suis pas, si vous voulez, un concepteur de programme. Mais j'ai une certaine liberté, effectivement. On va peut-être pas se cantonner dans le franco-français comme répertoire. Sinon, je trouve que ça limiterait le répertoire de cet orchestre.
Alors, il y aura peut-être cette valse de Strauss que vous avez choisie pour l'émission.
Ah oui,
la valse,
oui.
La dite musique des sphères, hein. La Sphering Lang, ici dirigée par le chef autrichien Franz Welser Most. Ça, vous la programmerez? On écoute un peu.
Thank you.
Voilà, ça se retrouvera peut-être ou pas dans vos choix de programmation à la tête de l'ONF. Jeudi prochain, vous donnerez aussi donc un premier concert à l'auditorium de Radio France, Emmanuel Krivine. Retour aux racines avec deux pièces au programme, le concerto pour piano et orchestre numéro 3, Rachmaninov d'abord, russe naturalisé américain, écrit à son arrivée aux États-Unis par Rachmaninov et interprété par ses soins. Voilà qui devrait bien convenir au fils d'un père polonais, d'une mère russe que vous êtes. Hein. On va peut-être trouver ces influences-là aussi dans votre programmation. On en écoute quelques notes et vous allez voir, c'est fantastique. Au piano, il fallait un virtuose et là, c'est Rachmaninov lui-même qui s'y met. Ce ne sera pas Rachmaninov au piano jeudi 12, mais vous avez choisi un
génial.
Fantastique pianiste russe. Racontez-nous.
Oui, Denis Matsouev, c'est un excellent pianiste, une merveille.
Qui a déjà interprété ce concerto plusieurs fois, notamment sous la direction de Laurine Mazel. Hein. Racontez-nous cette soirée, comment vous l'avez pensée?
C'est intéressant parce que vous voyez ce que vous venez d'entendre du thème du troisième rack, comme on dit chez nous, troisième rack Rachmaninov, c'est... Et je me suis dit, tiens, comment je vais choisir la seconde partie? Et le début de la septième Dvorak en seconde partie, c'est... C'est curieux, hein? Ré mineur, ça tourne autour, mélismatique comme ça, ça tourne autour du nombril ré mineur, c'est intéressant.
Dvorak, ce sera un autre morceau hein, très romantique, la symphonie numéro 7, qui a été créée à Londres à la fin du 19e. Déjà en 2008, vous aviez enregistré sa symphonie numéro 9, la fameuse symphonie du Nouveau Monde, celle qu'avait utilisée Gainsbourg dans Initial Bébé. Vous l'avez enregistrée avec la Chambre Philharmonique, premier enregistrement sur instrument d'époque. On en écoute un extrait.
Thank you.
La symphonie numéro 9, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. J'aimerais bien réussir à parler parfois comme les animatrices, vous savez, de France Musique, quand elles désannoncent les disques avec des voix absolument somptueuses, on dirait presque des météos marines. Mais ce ne sera peut-être pas pour aujourd'hui, Emmanuel Krivine, pardonnez-moi. Les instruments d'époque, on entend avec votre chambre philharmonique, cette interprétation de la symphonie numéro 9, des instruments moins parfaits, avez-vous dit, par rapport aux instruments d'aujourd'hui. C'est un peu comme si vous demandiez à un artisan s'il prend plus de plaisir qu'en travaillant à la chaîne. Parliez-vous à propos de la chambre philharmonique et de cette direction que vous assurez depuis un moment là-bas. Là, avec l'ONF, il va falloir se confronter à un orchestre moderne. Vous n'avez pas peur de ce retour à la modernité ?
Non, je conduis des orchestres modernes tout le temps. Et il faut pas trop opposer institutionnel à artisanal, parce que les institutions maintenant sont tout à fait artisanales, quoi. Il y a une mentalité qui n'a rien à voir avec l'usine ni la caserne. C'est justement ce qui est agréable dans une boîte comme le National, bien qu'elle fasse partie d'une immense baraque où nous sommes. C'est pas du tout caserneux. Et c'est ça qui est sympathique. C'est vraiment une vraie ambiance. Je pense que c'est important de considérer qu'un orchestre n'a rien à voir ni avec une caserne, ni avec une armée, ni avec une usine. C'est fait pour produire de la musique. D'ailleurs, entre nous, si les casernes et les usines fonctionnaient comme un orchestre, ça serait pas mal.
C'est vrai ?
Oui.
Vous avez changé d'avis alors ?
Oui. Tout à fait.
Bon, ça aurait été l'intérêt de cette émission. Au moins, vous vous faire une fois de plus changer d'avis. Un énorme merci, Emmanuel Krivine. On vous retrouvera donc à la tête de l'ONF dans l'auditorium de Radio France ce jeudi pour commencer. Et puis, de nombreuses autres et prochaines reprises à partir de septembre pour ce concerto pour piano et orchestre numéro 3 de Rachmaninov et cette symphonie numéro 7 de Dvorak. Ce sera jeudi 12. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.